Le débarras. Les enfants devaient être conduits, c'était une faveur spéciale, à la plage de Yarborough. Nicolas ne ferait pas partie du groupe, car il était en disgrâce. Pas plus tard que ce matin, il avait refusé de manger son pain au lait, nourriture pourtant très saine, sous le prétexte futile, semblait-il, qu'il contenait une grenouille. Des personnes plus âgées, plus sages, lui avait dit qu'il était impossible qu'il y eût une grenouille dans son pain au lait et qu'il devait cesser de dire des bêtises. Il persista néanmoins à dire les pires bêtises et décrivit avec maints détails la coloration et les marques distinctives de la prétendue grenouille. Le plus dramatique était qu'il y avait vraiment une grenouille dans le bol de pain au lait de Nicolas. Il l'y avait mis lui-même. Aussi avait-il la prétention d'en savoir quelque chose. Le péché qui avait consisté à se saisir d'une grenouille du jardin pour la mettre dans son bol de pain au lait, nourriture saine s'il en est, fut longuement discuté. Mais le fait le plus saillant de l'affaire, tel qu'il se présenta à l'esprit de Nicolas, fut qu'il avait été démontré que des personnes plus âgées et plus sages s'étaient lourdement trompées sur un point qu'elles avaient nié avec la plus grande assurance. « Vous avez dit qu'il ne pouvait y avoir de grenouille dans mon pain au lait. » Or, il y avait bel et bien une grenouille dans mon pain au lait, répétait-il avec l'insistance habile d'un tacticien sûr de ce qu'il avance et qui entend ne pas en démordre. Aussi, son cousin, sa cousine, son jeune frère, allaient-ils être conduits à la plage de Yarborough cet après-midi, tandis que lui resterait à la maison. La tante de ses cousins, qui insistait, Dieu sait pourquoi, pour être aussi appelée sa tante, avait hâtivement inventé l'expédition de Yarborough pour faire comprendre à Nicolas la nature des plaisirs dont il allait être privé en raison de sa honteuse conduite à la table du petit-déjeuner. C'était son habitude, chaque fois que l'un des enfants tombait en disgrâce, d'improviser une activité de nature festive dont le coupable serait irrémédiablement privé. Si les enfants pêchaient de manière collective, on les informait de la présence, dans la ville voisine, d'un cirque d'un mérite inégalé et aux innombrables éléphants, auxquels, n'eût été leur dépravation, ils auraient été conduits le jour même. On attendait de Nicolas qu'il versât quelques larmes au moment du départ des cousins. En réalité, pourtant, les seules larmes furent celles de la cousine qui s'était douloureusement écorché le genou contre le marchepied de la voiture alors qu'elle s'y hissait. « Comme elle a hurlé !» dit joyeusement Nicolas, alors que la troupe démarrait sans la moindre trace de l'excellente humeur qui eût dû la caractériser. « Elle aura tôt fait de s'en remettre !» dit la soi-disant tante. « Ce sera une splendide après-midi pour courir sur le beau sable de la plage. Comme ils vont bien s'amuser !»« Bobby ne va guère s'amuser, et il ne courra pas non plus !» fit Nicolas avec un sombre gloussement. « Ses chaussures lui font mal. Elles sont trop serrées. »« Pourquoi ne m'a-t-il pas dit qu'elles lui faisaient mal ?»« Il vous l'a dit deux fois, mais vous n'écoutiez pas. »« C'est souvent que vous n'écoutez pas quand on vous dit des choses importantes. »« Je te défends d'aller dans le jardin à groseille, » dit la tante en changeant de sujet. « Pourquoi ?» demanda Nicolas. « Parce que tu es en disgrâce, » répondit la tante d'un ton hautain. Nicolas ne reconnut pas la logique irréprochable de ce raisonnement. Il se sentait tout à fait capable d'être simultanément en disgrâce et dans le jardin à groseille, son visage exprimant un profond sentiment d'obstination. Il semblait patent à sa tante qu'il était résolu à gagner le jardin à groseille et uniquement, se dit-elle, parce que je lui ai défendu d'y aller. Or, le jardin à groseille avait deux portes par lesquelles on pouvait y accéder. Et une fois qu'un petit gabarit comme celui de Nicolas s'y était glissé, il pouvait échapper à tout regard en se cachant au milieu de la végétation d'artichauts, de framboisiers et de buissons fruitiers. La tante avait beaucoup d'autres choses à faire dans son après-midi, mais elle passa une ou deux heures en activité frivole de jardinage parmi les parterres de fleurs et les arbustes, d'où elle pouvait surveiller les deux portes conduisant au paradis défendu. C'était une femme de peu d'idées, mais dotée d'un immense pouvoir de concentration. Nicolas fit une ou deux incursions dans le jardin de devant, se tortillant d'un air ostensiblement furtif auprès de l'une ou l'autre des portes, mais sans pouvoir se dérober à l'œil vigilant de la tante. En fait, il n'avait nullement l'intention d'essayer d'entrer dans le jardin à groseilles, mais il était extrêmement commode pour lui de faire croire à sa tante que c'était là son dessein. C'était une illusion qui la maintiendrait volontairement en sentinelle à cet endroit pour une bonne partie de l'après-midi. Ayant délibérément confirmé et renforcé ses soupçons, Nicolas se glissa de rechef dans la maison et mit rapidement à exécution un plan d'action qui avait longtemps germé dans son cerveau. En se mettant debout sur une chaise de la bibliothèque, on pouvait atteindre une étagère sur laquelle reposait une grosse clé à l'aspect imposant. Cette clé ne paraissait pas seulement importante, elle l'était. C'était l'instrument qui maintenait en sécurité les mystères du débarras, les protégeait d'intrusions indésirables et ouvrait la voie aux seules tantes et autres personnes privilégiées. Nicolas n'avait pas beaucoup d'expérience dans l'art d'insérer des clés dans des trous de serrure et d'ouvrir des verrous, mais depuis quelques jours il s'était entraîné avec la clé de la porte de la salle de classe. Il jugeait risqué d'avoir une confiance exagérée dans la chance et dans les accidents. La clé tourna laborieusement dans la serrure, mais elle tourna. La porte s'ouvrit, et Nicolas se trouva un pays inconnu, comparé auquel le jardin à groseilles était un délice éventé, un plaisir purement matériel. Nicolas avait souvent imaginé à quoi ressemblerait le débarras, cette région si hermétiquement close à ses jeunes yeux, et à propos duquel toutes ces questions demeuraient sans réponse. Son attente ne fut pas déçue. Premièrement, il était vaste et faiblement éclairé, une haute fenêtre donnant sur le jardin défendu étant la seule source de lumière. En second lieu, c'était un magasin de trésors inimaginables. La tante autoproclamée était une de ces personnes qui jugent qu'on gâte les objets en les utilisant et qui les confie à la poussière et à l'humidité dans le but de les préserver. Toutes les parties de la maison les mieux connues de Nicolas étaient plutôt nues et tristes, mais ici se trouvaient des choses merveilleuses qui étaient un régal pour l'œil. Avant tout, il y avait une pièce de tapisserie encadrée, censée de toute évidence être un écran de cheminée. Pour Nicolas, c'était un tableau vivant et animé. Il s'assit sur un rouleau de tentures indiennes qui rougeoyait de couleurs merveilleuses sous une couche de poussière et embrassa tous les détails du tableau. Un homme, vêtu d'un costume de chasse remontant à quelques périodes éloignées, venait de transpercer un cerf d'une flèche. Il n'avait pas eu de mal à viser juste, car le cerf n'était qu'à un ou deux pas de lui. Dans l'épaisse végétation suggérée par le tableau, il n'avait pas été difficile d'approcher en rampant d'un cerf occupé à brouter, et les deux chiens tachetés qui bondissaient en avant pour se joindre à la chasse avaient manifestement été dressés à rester au talon tant que la flèche n'avait pas été décochée. Cette partie du tableau était simple et intéressante, mais le chasseur voyait-il, ce qui n'échappait pas à Nicolas, que quatre loups lancés au galop fonçaient sur lui à travers le bois. L'homme et le chien auraient-ils le temps de faire face aux quatre loups? D'apparence moins prometteuse était un grand livre carré aux couvertures toutes simples. Nicolas y jeta un coup d'œil, et voilà qu'il était plein d'oiseaux. Et quels oiseaux! Et tandis qu'il admirait les couleurs d'un canard mandarin, et méditait sur ce qu'avait pu être sa fille, la voix criarde de sa tante, vociférant son nom, lui parvint du jardin à groseilles. Sa longue disparition avait fini par éveiller ses soupçons, et elle avait hâtivement conclu qu'il avait escaladé le mur derrière l'écran protecteur de buisson de lilas. Elle avait donc entrepris de le dépister parmi les artichauts et les framboisiers. « Nicolas ! Nicolas ! » criait-elle. « Je t'ordonne de sortir de là tout de suite. Inutile de te cacher, je te vois en permanence. » C'était sans doute la première fois depuis 20 ans que quiconque avait souri dans ce débarras. Bientôt, les répétitions coléreuses du nom de Nicolas firent place à une clameur déchirante, suivie d'une demande instante de secours immédiat. Nicolas ferma le livre, le remit soigneusement à sa place dans un coin et le saupoudra de poussière empruntée à une pile de journaux. Puis il se glissa hors de la pièce, verrouilla la porte et replaça la clé à l'endroit exact où il l'avait trouvée. Sa tante continuait d'appeler son nom lorsqu'il entra d'un pas nonchalant dans le jardin de devant. « Qui est-ce qui m'appelle ? » demanda-t-il. « Moi !» fut la réponse venue de l'autre côté du mur. « Tu ne m'as donc pas entendu ? Je t'ai recherché dans le jardin à Groseille et j'ai glissé dans la citerne. Heureusement, elle était vide, mais les parois sont glissantes et je n'arrive pas à en sortir. Va chercher la petite échelle qui se trouve sous le cerisier. » « On m'a dit qu'il était défendu d'entrer dans le jardin à Groseille, » répondit promptement Nicolas. « Je te l'ai défendu, et maintenant je t'y autorise, » dit la voix plutôt impatiente venue de la citerne. « Votre voix ne ressemble pas à celle de ma tante, » objecta Nicolas. « Vous êtes peut-être le malin, le tentateur qui veut me pousser à la désobéissance. Ma tante dit souvent que le mauvais me tente, et que je lui cède toujours. Cette fois, je ne vais pas céder. » « Arrête de dire des sottises !» fit la prisonnière de la citerne. « Va chercher l'échelle !»« Y aura-t-il de la confiture de fraises au goûter ?» demanda innocemment Nicolas. « Certainement, il y en aura, » dit la tante, décidant que Nicolas n'en aurait pas une bouchée. « Ah, maintenant je sais que vous êtes le malin, et pas ma tante !» s'écria Nicolas avec jubilation. « Quand nous avons demandé de la confiture de fraises à notre tante hier, elle nous a dit qu'il n'y en avait pas. Or, je sais qu'il y en a 4 pots dans la réserve, parce que j'ai regardé. Et bien sûr, vous, le malin, vous savez qu'ils y sont. Mais notre tante, elle, ne le sait pas, puisqu'elle a dit qu'il n'y en avait pas. Oh, démon, vous vous êtes trahi! » Être capable de parler à une tante comme si on s'adressait au malin donnait une impression de luxe inhabituelle. Mais Nicolas savait, avec son discernement d'enfant, que de tels luxes sont à consommer avec modération. Il s'éloigna bruyamment, et ce fut une fille de cuisine, venue cueillir du persil, qui finalement sauva la tante et l'aida à s'extraire de sa fâcheuse position. Le goûter, ce soir-là, se déroula dans un silence alarmant. La marée avait été au plus haut quand les enfants étaient arrivés à Yackborough Cove. Aussi n'avait-il pas pu jouer sur le sable, circonstance qui avait échappé à la tante dans sa hâte à organiser son expédition punitive. Les souliers trop serrés de Bobby avaient eu un effet désastreux sur son humeur pendant toute l'après-midi. Et l'un dans l'autre, on ne pouvait prétendre que les enfants s'étaient bien amusés. La tante s'enfonça dans le glacial mutisme de quelqu'un qui avait souffert un enfermement indigne et immérité de 35 minutes dans une citerne. Quant à Nicolas, lui aussi se taisait, absorbé comme un garçon à l'esprit très occupé. Il était possible, après tout, se disait-il, que le chasseur ait pu s'échapper avec ses chiens alors que les loups festoyaient sur le cerf abattu.